passion moderniste.
Vive le roi !
Le podcast qui éclaire.
Versailles, la cour, le peuple, la reine, le clergé.
L'histoire moderne.
La terre est proche.
La thèse est osée.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion moderniste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je vous propose de rencontrer de jeunes chercheurs et chercheuses en master ou en thèse qui étudient l'histoire moderne. Et pour rappel, l'histoire moderne, c'est un peu cette période qui s'est glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire, en gros, pour l'Europe occidentale, entre les années 1500 et 1800. Le but de ce podcast est vraiment de vous faire découvrir des choses sur l'histoire, même si vous n'y connaissez rien. Épisode 45. Mathieu et l'alimentation au XVIIIe siècle, c'est parti.
Il y a des gens que ça intéresse ce...
Personne.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui est un jour historique. À plein d'égards, hein, bien sûr. Mais pour ce qui nous concerne, c'est la première fois qu'un épisode de Passion moderniste est enregistré en public. Nous sommes en effet aujourd'hui aux archives du Val-de-Marne à Créteil, au pavillon des archives. Il y a plus de 40 personnes dans la salle et je vous remercie déjà de vous être déplacées. Mais j'imagine, mesdames et messieurs, que vous avez été peut-être un petit peu déçus en arrivant aujourd'hui. Peut-être que oui, vous avez été attirés par le sujet du jour, alléchés par le titre, en pensant peut-être trouver dans la salle des mets goûtus et de la dégustation. Mais malheureusement non. Aujourd'hui, les seules choses que nous allons déguster, mais de façon métaphorique, hein, attention, ce sont des archives. Et non, je ne vous encourage pas à aller manger des archives, hein, non, ne prenez pas ça comme excuse, hein, sinon je vais mettre tous les archivistes de France à dos. Et donc aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fabuleux des archives, donc pour voyager au XVIIIe siècle à travers l'alimentation d'une famille noble. Et notre guide temporel en quelque sorte aujourd'hui, c'est le chercheur Mathieu Lanos. Bonjour Mathieu.
Bonjour Fanny, bonjour tout le monde.
Je te reçois donc Mathieu parce que, alors, tu as fait un mémoire de première année de master sur l'alimentation des Malons de Bercy entre 1742 et 1781. Tu étais sous la direction de Mireille Touzery, j'ai bien dit ?
Oui, tout à fait.
Mireille Touzery, à l'Université Paris-Est, Créteil. Donc tu étais en 2022 en master d'histoire publique, mais tu as aussi fait ensuite un M2 en master histoire moderne recherche sur le même sujet en 2024. Déjà un peu première question rituelle, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet?
Alors le sujet m'a été proposé par Mireille Touzery en tout début d'année, quand il a fallu décider des sujets des élèves ou quand on le présentait. Moi j'ai été très vite attiré par l'originalité de l'alimentation, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ce thème dans tous les travaux d'histoire ou dans les ouvrages. Et je me suis dit, c'est vrai, la question, enfin, que mangeait-on au XVIIIe siècle? Quelles recettes préparait-on? Où est-ce qu'on se fournissait? Et je trouvais que ce n'était pas banal en fait comme sujet.
C'est bien, tu as posé la question auxquelles on va répondre dans l'épisode. Tu travailles, on l'a dit, majoritairement sur le XVIIIe siècle. Alors, j'avoue que je ne suis pas très très au fait de ce qui s'est passé, donc rappelle-nous un peu le contexte historique de cette époque.
Alors, de manière très synthétique, hein, j'ai surtout traité donc, de la seconde moitié du XVIIIe siècle, puisque mon sujet s'étend entre 1745 et 1781. C'est une période plutôt charnière pour la société française. La monarchie absolue est encore en place, mais l'autorité royale est de plus en plus contestée, notamment avec la montée des idées des Lumières. Et on est aussi sur une période à cheval, en fait, entre le règne de Louis XV et le règne de Louis XVI. Le pouvoir est fragilisé en ce moment, enfin, à cette époque-là, notamment par les tensions politiques et économiques.
Et donc, tu as commencé à dire que tu travailles sur la famille des Malons de Bercy. Comment est-ce que tu nous les présentes? Et Bercy, on parle de quel Bercy? Parce que là, quand on est à Paris et aussi à Créteil, il y en a plusieurs des Bercy possibles.
Alors, pour le Bercy, il faut avoir en tête que le Bercy que nous connaissons aujourd'hui est dû en fait au décalage du village de Bercy. Le Bercy, moi, dont je parle, il se situait plutôt aux environs de Charenton-le-Pont.
Oui, donc rien à voir, quoi.
Oui, tout à fait, rien à voir. En fait, il reste aujourd'hui seulement les vestiges des bâtiments des communs, là où on logeait les domestiques. Et ces deux vestiges se situent dans la rue du Petit Château à Charenton-le-Pont. Donc c'est plus en hauteur vers le bois, très éloigné de la Seine, et le domaine en fait possédait son château, qui se trouvait un tout petit peu plus loin que les communs et qui avait une très belle vue sur la Seine et sur Paris.
Et donc cette famille, les Malons de Bercy, alors est-ce que tu peux nous les présenter et nous dire déjà un petit peu sur quelle personne de cette famille tu travailles? Est-ce que c'est sur une génération donc, ou plusieurs générations?
Je vais travailler sur deux générations. Enfin, j'ai travaillé sur deux générations. La première, c'est celle de Nicolas Charles de Malon de Bercy, donc qui est né en 1708 et qui est mort en 1790.
Bonne longévité.
Oui, une très belle longévité. Accompagnée aussi par son épouse, donc Françoise Taschereau de Baudry, qui par contre, elle, est décédée quelques années avant lui en 1786. Et je travaille aussi sur la génération donc, de leur fils, Maximilien Emmanuel Charles, et de son épouse, Catherine de Simiane.
Ça fait beaucoup de noms à retenir, on va les redire au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Et donc, on va en reparler pas mal de fois dans l'épisode, mais donc tu travailles sur cette famille grâce à des sources qui sont conservées ici aux archives du Val-de-Marne. Alors déjà, présente-nous rapidement le fonds sur lequel tu as travaillé.
Le fonds d'archives des Malons de Bercy, conservé ici, c'est un fonds qui a à peu près 300 ans d'existence, avec bien sûr des pièces qui sont bien, bien plus anciennes, notamment une qui date du XIIIe siècle.
Tu as du médiéval ?
Oui, il y a du médiéval, mais c'est une des rares pièces médiévales. Oh. Un fonds aussi qui est passé entre plusieurs mains, donc des Malons de Bercy à leurs héritiers, notamment les Nicolaï, une famille qui est liée aux Malons de Bercy par mariage, mariage qui a lieu après la période révolutionnaire. Et ensuite, ce fonds est passé des Nicolaï à leurs descendants, par alliance, jusqu'au Cossé de Brissac, qui existe encore aujourd'hui. Ce sont d'abord les Archives nationales qui ont obtenu ce fonds, et ensuite, il a été transmis aux archives départementales.
Pourquoi ?
Parce qu'elles étaient au Val-de-Marne.
Ah oui, non, voilà. Mais c'est... je demande, c'est pas forcément évident.
En quelque sorte, c'est le domaine de Bercy se trouverait, s'il existait encore, au Val-de-Marne, le fonds avait quand même toute sa place ici.
On va rentrer progressivement dans le sujet. Alors, je dis tout de suite, j'ai plein de questions sur ce sujet, mais genre plein. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a du temps aujourd'hui, donc rentrons dans le vif du sujet, l'alimentation. Déjà, on va commencer par dire un truc important, c'est qu'on va parler plutôt de l'alimentation, de quel niveau social de la société ?
Les Malons de Bercy, donc, époque moderne oblige, hein, ce sont les membres masculins qui se sont démarqués au terme, dans leur charge. Donc c'était des charges d'intendant de province, de président du Grand Conseil. Donc on parle d'une famille qui se trouvait dans les très hautes sphères du gouvernement, donc d'une famille de la noblesse, mais de la noblesse de robe.
Donc là, on va effectivement parler plutôt de l'alimentation de la noblesse, même si on va voir qu'on va aussi parler pas que de la noblesse parfois avec certains employés de cette famille. Enfin, déjà, est-ce qu'on peut dire que leur alimentation reflète toute la société ?
Non, malheureusement.
Bon, voilà, c'est important à dire, c'est que là, même si on a titré l'épisode « L'alimentation au XVIIIe siècle », on parle des sources qu'on a. Alors déjà, on va dire tout simplement, donc les Malons de Bercy, quand ils mangeaient, je ne sais pas, voilà, un mardi ou un jeudi, je ne sais pas quel jour, à quoi pouvait ressembler une journée dans l'assiette des Malons de Bercy ? C'est-à-dire, on sait à peu près qu'est-ce qu'ils mangeaient de façon commune ?
De manière très générale, comme la plupart des membres de la noblesse, leur assiette est surtout composée de viande. C'est environ 40% de l'assiette. C'est beaucoup. Après, bien sûr, il y a quand même un peu de légumes, environ 20%. Et après, le reste, ça se départage vraiment entre la boisson, principalement du vin, et moi, ce que j'appelle les gourmandises, donc tout ce qui ressort de la pâtisserie, de la sucrerie, et même le fromage. Il faut savoir qu'à l'époque moderne, l'eau n'est quasiment pas potable. Je dis quasiment parce qu'il y avait des moyens de la rendre potable. Et encore. Donc, pour la rendre potable, là, je vais parler du cas des Malons de Bercy. Ils possédaient ce qu'on appelait une fontaine à sable. Le sable permettant de purifier l'eau, selon l'époque moderne. Mais de manière très générale, on consomme surtout du vin. Alors, pour les Malons de Bercy, j'ai eu une source qu'on appelle un état des vins consommés, qui me permet de savoir ce qu'ils ont consommé en termes de bouteilles. Sur l'année 1763, on sait qu'au total, ils en ont consommé 1782.
Bouteille ?
Oui.
À 4 ?
Ce qui fait environ 120 bouteilles de rouge par mois. Donc 4 bouteilles par jour. Après, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que eux.
Oui.
Il y a peut-être les domestiques qui servaient et que le vin était aussi utilisé en cuisine. Très certainement.
Oui, peut-être qu'ils ouvraient pour boire un verre et après c'était tous les domestiques qui se rinçaient, quoi.
Oui. Après, il faut aussi nuancer parce que là, j'ai fait une moyenne. Mais comme je n'ai pas de visibilité sur les événements mondains, là, peut-être qu'il y avait bouteille à foison.
Oui, là, s'ils invitaient 35 personnes, forcément, ça boit plus que quand ils sont 4.
Oui.
Et d'ailleurs, je renvoie... Alors, peut-être que l'épisode ne sera pas encore sorti au moment où celui-là sortira. Alors, vous allez comprendre. C'est que, pour Passion Médiéviste, j'ai fait un épisode sur boire de l'eau dans les villes du Sud-Ouest et qui sortira bientôt. Et justement, on parle beaucoup de ça. C'est que, aussi, pourquoi... Enfin, c'est vraiment un truc hyper intéressant et qui était évident et voilà, il faut l'avoir en tête. Pourquoi on a aussi peu d'informations sur l'eau ? C'est que l'eau n'est pas commercialisée.
Oui.
Et donc, on n'a pas de traces comptables de consommation en eau parce qu'elle n'était pas vendue. C'est peut-être qu'ils en buvaient, mais juste, ce n'était pas compté dans les sources.
Alors, pour la période que j'ai étudiée, oui. Après, pour la période révolutionnaire, on les voit. puisque on voit un système de dépenses qu'on appelle les voies d'eau. La voie d'eau, ça permet, c'était un certain volume d'eau, ça coûtait très peu cher. Là, j'ai les francs en tête, donc c'est pas la bonne monnaie, mais en tout cas, ça coûtait bien moins cher que tout le reste. C'était sans doute la dépense la plus faible. Pour autant, en termes d'occurrence, hein, j'entends, là maintenant, c'était l'aliment, enfin la boisson en tête.
Et juste pour les vins, est-ce qu'on sait à peu près d'où venaient les bouteilles qu'ils consommaient ?
Ils venaient un peu partout de France. On sait aussi qu'ils ont pu consommer du vin de Chypre et du vin de Malaga, qui est en Espagne.
Donc ouais, ils sont pas par exemple fans de vin de Bordeaux, par exemple, ou de Bourgogne ?
Pour le vin, on n'est pas sûr, mais on sait que le vin que boit la noblesse, c'est obligatoirement celui que boit le roi.
Ah oui, 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 oui. Et donc, qu'est-ce qu'on sait sur leur repas ? Est-ce qu'ils avaient, comme nous aujourd'hui, un petit déjeuner, un dîner ou pas forcément ?
On sait qu'à l'époque moderne, il y avait 4 repas. Alors, pour le public qui nous écoute et le public présent, vous allez être étonné d'entendre certains termes qui ne correspondent pas à nos horaires. Parce qu'il y a eu un décalage horaire, en fait, entre les repas de l'époque moderne et les nôtres aujourd'hui. Donc le déjeuner, qui pour nous est à midi, eux, c'est le repas du matin. Le dîner, qui est nous le repas du soir, eux, c'est le repas du midi. Et le souper, c'est leur repas du soir, qui était le plus léger de tous.
Et le quatrième, du coup, t'as dit quatre...
Et le quatrième, en fait, alors là, tout dépend de leur, on va dire, de leur emploi du temps. Le goûter, c'est le quatrième, mais il ne sert qu'à qualifier les repas pris en extérieur.
Donc pas forcément quelque chose seulement de sucré.
Pas seulement quelque chose de sucré.
Donc on avait déjà quand même du goûter à l'époque. Oui. Non, j'adore le goûter, c'est très important. On a dit le nombre de repas. Où est-ce que ces personnes mangeaient ?
Alors, tôt au XVIIIe siècle, on mangeait à peu près, je dirais presque dans n'importe quelle pièce. Parce qu'en fait,
on a faim, allez paf, je mange là quoi.
Oui, parce qu'en fait, la table, elle n'était pas fixe comme elle l'est aujourd'hui. La table, ça reposait sur un système de tréteaux et de planches. Donc il suffisait d'avoir le tréteau et la planche à côté, on pouvait manger dans sa chambre, dans un vestibule ou dans une antichambre.
Dans un couloir, allez après voilà. Voilà. Couloir.
Bah, c'est caricaturellement parlant, oui, c'est presque ça. Mais à partir du milieu du XVIIIe siècle, il y a une pièce qui arrive et qu'on appelle la salle à manger.
Comme aujourd'hui là.
Comme aujourd'hui.
Tu veux dire qu'on n'avait pas de salle à manger dans les maisons des nobles avant cette époque-là ?
Non, c'était extrêmement rare.
Est-ce que du coup ça a changé les habitudes et peut-être la façon qu'ils avaient de manger ?
Alors sur ce point-là, on ne sait pas grand-chose. Mais je pense qu'il n'y avait pas vraiment de différence puisque tout était codifié et je pense que les codes qui étaient mis en place quand le système n'était pas fixe se sont juste posés sur le système fixe de la salle à manger.
Alors qu'est-ce qu'on avait comme code pour manger ? Raconte-nous un petit peu tout ça.
À titre personnel, je n'aurais pas aimé manger à la table des malins de Bercy. Parce
Pourquoi ?
Qu'on avait toute une série de codes qui rigidifient le corps, vraiment. Ils appartiennent à la noblesse, donc étiquette oblige, on doit se tenir droit. Les poignets sont sur le bord de la table.
Alors, non, ne le fais pas, ça fait du bruit au micro, ça.
Les coudes doivent être quasiment contre nos flancs. Il ne faut pas écœurer son voisin, donc pas de bruit de mastication. On ne doit pas octer, on ne doit pas éructer, on ne doit pas regarder l'assiette du voisin.
Hein?
Et aussi, il faut contrôler ses gestes. Alors, ce n'est pas le corps qui va vers l'assiette, c'est l'aliment qui va jusqu'à la bouche. Sachant aussi qu'il y a un code pour la présentation de la table et comment on est servi. Alors pour la présentation de la table, il faut que ça obéisse à un plan d'harmonie et de symétrie.
C'était très très strict.
Ah oui, et visuellement parlant, il y a aussi un ordre, c'est-à-dire que le plat le plus grand est au milieu de la table et après on a une espèce de forme pyramidale qui descend jusqu'aux assiettes.
Et donc on avait aussi des règles sur comment étaient amenés les plats ?
Alors là-dessus, en tout cas avec les sources des Malins de Bercy, je n'ai pas vraiment de réponse. Après, il y a encore un code dans certaines tables aujourd'hui où le service suit le sens d'une aiguille d'une montre. On arrive par le nord, si on veut, on tourne d'est en ouest ou d'ouest en est, et on repart.
Et donc, tu as commencé à le dire, donc on a beaucoup de viande dans les assiettes. Qu'est-ce qu'on sait de comment étaient composées les assiettes et peut-être aussi des quantités qui étaient consommées ? Parce que ça peut être assez intéressant.
Pour les quantités consommées, je n'ai pas les quantités de tous les aliments, malheureusement. Mais j'ai donc une source intéressante qu'on appelle un livre de dépenses de table, où toutes les dépenses étaient enregistrées par chapitre, qui indique pour certains produits, bien sûr, les quantités, et notamment la viande et le pain. Alors, la viande, ça peut paraître gros, mais c'était environ 5 kilos de viande par jour.
Mais pour nourrir combien de personnes ?
On avait bien sûr les malins de Bercy, donc qui étaient 4 à table.
Donc
les parents, ouais. Le fils et l'épouse du fils.
Il n'y avait pas eu d'autres enfants ?
Plus tard, à partir de 1779, mais c'était des nouveau-nés.
Ah oui, mais les enfants, les bébés d'après, tu veux dire, enfin, la troisième génération ?
Ouais, la troisième génération, elle, c'est plus tard après qu'on...
Donc tu as dit le fils, là, il n'avait pas de frères et sœurs ?
Ah non, il était fils unique. Donc il y avait les quatre malins de Bercy, et en fait, à l'époque moderne, il y avait un système qu'on appellerait aujourd'hui anti-gaspi, qui en fait permettait d'éviter le gaspillage, parce qu'à l'époque moderne, en fait, on ne voulait pas gaspiller ce qu'on consommait. Donc les plats venaient sur la table, les malins de Bercy se servaient, l'étiquette de la noblesse l'obligeant, ils se servaient peu, parfois presque rien.
Comment ça, l'étiquette les obligeait à manger peu ?
Oui, c'était une des règles, il ne fallait pas se goinfrer.
Mais si t'avais encore faim, tu n'avais pas le droit de te resservir ?
Non.
Oh oui, c'est... oui, je suis choquée. Donc il devait grignoter entre les repas en fait.
Oui, non, ça c'était interdit.
Donc après, que devenait la nourriture ?
Alors après, elle repartait en cuisine. Une fois qu'elle était en cuisine, les domestiques pouvaient se servir.
Là, c'était autorisé, vraiment ?
Oui, c'était autorisé. Et les domestiques avaient leur propre salle à manger.
Mais même ce que j'ai vu dans tes recherches, c'est que ces restes, même si les domestiques ne les mangeaient pas, ils avaient peut-être encore une autre vie derrière ?
Oui, alors il y avait deux destins de vie. Soit c'était réutilisé pour la farce, je pense que c'était surtout pour la viande et certains légumes, soit les restes étaient revendus à ce qu'on appelle un regrattier. Regrattier, pour faire simple, c'est un revendeur de nourriture.
Techniquement, au bout d'un moment, la nourriture, tu ne peux pas la revendre beaucoup de fois. Enfin, faut aller un peu vite à ce moment-là.
Voilà, c'est tout le problème.
Mais il revendait à qui, en fait ?
Alors, le regrattier, en fait, revendait la nourriture soit aux taverniers, soit aux aubergistes. Et dans de très rares cas, à des particuliers.
Donc là, effectivement, comme tu as dit, c'est un vrai système anti-gaspi. La nourriture, voilà, n'est pas perdue. On ne jette pas la nourriture, en fait.
Non, on évite de jeter la nourriture. Même si, bon, après être passée entre plusieurs mains, elle n'est plus en très bon état.
Et on parle de l'étiquette. Alors, ce qui me fait rire aussi, c'est que même s'il y a cette étiquette, tout ça, auquel les malins de Bercy suivaient, ils avaient quand même des petites filouteries, notamment pendant les fêtes religieuses.
Oui, à l'époque moderne, hein, l'Occident est majoritairement chrétien et suit donc un calendrier liturgique où s'alternent période de maigre et période d'abstinence.
Alors déjà, ils ne mangeaient pas beaucoup. Et là, ils mangeaient encore moins, c'est ça ?
Encore moins, ça dépend du point de vue. Notamment pendant le carême, donc qui est censé, je dis bien censé, être la période de jeûne la plus importante pour les chrétiens, la noblesse avait trouvé des moyens de contourner les règles.
C'est-à-dire ?
Bon, les règles de base, on doit remplacer la viande par le poisson, notamment.
Jusque-là, ça va, oui.
On doit remplacer aussi le beurre par les huiles végétales, à l'époque moderne. Sauf que la noblesse, notamment à travers leurs cuisiniers, ont réussi en fait à contourner les règles en créant ce qu'on appelle la gastronomie du maigre. Les repas sains, S-A-I-N-T. Et en fait, ils utilisaient plein de produits qui ne sont pas normalement autorisés.
C'est-à-dire lesquels ?
Des truffes, du chocolat, notamment parfois. Très rare cas, mais il y en avait quand même. La viande de canard.
Oui, c'est pas précisé.
Oui. ce n'est pas précisé, mais quand même. Et même en fait, quand on regarde en termes de quantité pour quelques périodes plus tard, on voit quand même que même pendant le carême, le poisson, c'était pas le petit morceau, c'était quand même le poisson... entier qu'on présentait à table.
Donc c'était vraiment pour les convenances. Oui, on mange pas la viande, mais en fait derrière, on cherche quand même à se faire plaisir. Alors toi, on l'a pas dit aussi, c'est que tu as surtout travaillé sur la nourriture en fait, du quotidien. Parce que finalement, dans tes sources, tu n'as pas beaucoup trouvé tout ce qui était en fait, le côté prestigieux, c'est ça ?
C'est ça, c'est vrai que j'ai surtout vu les repas hors mondanité.
Parce que pour le coup, le repas mondanité et tout, il m'a semblé lire dans tes recherches qu'ils étaient connus pour ça, en fait, les malins de Bercy ?
Oui, au cours du XVIIIe siècle, le parc... du domaine a été un espace de mondanité, notamment parce qu'il y avait des représentations théâtrales en extérieur qui étaient faites dans certains recoins de leur jardin. Donc les mondanités, à ce moment-là, c'était le luxe. Mais je n'ai malheureusement pas eu de vision sur ces événements-là.
Donc toi, c'est vraiment que l'assiette quotidienne.
Oui, l'assiette quotidienne.
Et donc, on a parlé donc, de différents produits, mais quels étaient les produits qui avaient le plus de succès à l'époque, qu'on retrouve le plus dans l'assiette ?
Le succès d'un produit, c'est compliqué en fait à mesurer. Parce qu'en fait, si un produit apparaît régulièrement dans l'assiette des malins de Bercy, c'est peut-être pas forcément un succès lié à la population entière, hein, comme on peut en rencontrer aujourd'hui. Hein. Un produit fait grand bruit, tout le monde se l'arrache. À cette époque-là, le succès, c'est surtout celui du roi.
C'est le roi qui lançait les modes, quoi.
C'est le roi qui lance les modes, et c'est pas vraiment le produit en lui-même.
Donc toi, est-ce que tu retrouves peut-être des tendances dans l'assiette, clairement certains produits qui sont surtout à cette époque et finalement non ?
Alors j'ai surtout vu la persistance de certains succès, notamment celui du haricot et des petits pois, qui étaient très appréciés de Louis XIV.
J'aime pas les petits pois, je t'ai
dit. C'était apprécié de Louis XIV alors qu'on est entre 1745 et 1781.
C'est un scoop, moi je savais pas que Louis XIV aimait les petits pois.
Il aimait ces deux légumes-là. Et pareillement, on voit aussi la mode du sorbet. Parce que les malins de Bercy, dans leur domaine, possédaient ce qu'on appelle une glacière.
Donc les sorbets comme aujourd'hui on peut en manger ?
Les sorbets, les crèmes glacées, il y avait un succès, mais il avait été lancé par Marie de Médicis. Le succès a été poursuivi par Louis XIV et il a perduré encore jusqu'en 1780. Et on le voit donc avec les sources des Malons de Bercy.
Mais on peut imaginer que ce que mange le roi peut-être est très prestigieux et un peu cher. Donc est-ce que les Malons de Bercy peuvent avoir des problèmes pour se procurer certains produits ?
C'est ça le problème, on va dire, avec les Malons de Bercy. C'est qu'on sait qu'ils avaient un peu de mal à payer certaines choses.
C'est quoi, des riches qui consomment beaucoup trop ? Mais c'est bizarre, ça
voilà.
Me dit rien du tout.
C'est les
pas
riches
du
qui
tout comme aujourd'hui, dis donc.
Avec les Malons de Bercy, on va dire, on ne sait pas trop quels sont les produits les moins accessibles ou les plus accessibles.
Parce qu'ils prenaient tout.
Ils prenaient tout. Et on leur donnait aussi certains produits.
Et donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y avait quand même des grosses différences par rapport au reste de la population ou pas du tout ?
Oui. Oui, oui. Qu'est-ce il y a de très grosses différences.
Ouais, c'est quoi les différences ?
On sait que le repas paysan, à l'époque moderne, c'est surtout des légumes et tout ce qui est céréales, pour notamment faire le pain. Alors, pas le pain blanc qui était fait dans les grandes villes et auquel la noblesse avait accès, mais plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui le pain noir.
Donc le pain avec du seigle, ce genre de choses.
Voilà, c'était surtout un mélange de céréales.
Qui coûte en fait plus cher aujourd'hui, en fait,
oui.
Dans les boulangeries que le pain blanc. C'est fou. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais pour ces familles, est-ce que ça pouvait vraiment être quand même un moment de plaisir ou pas de manger, ou est-ce que c'est juste un autre moment de la journée comme un autre ?
C'était pas vraiment un moment de convivialité. Enfin, en tout cas, de ce que je vois avec toutes les règles, la pression, on va dire, des règles instruites par la noblesse, ce qu'ils doivent manger, c'est ce que la noblesse doit manger, c'est parce qu'eux veulent manger. Donc la notion de plaisir, je pense qu'elle elle est à oublier malheureusement pour les repas des Malons de Bercy. Et même pendant les mondanités, je pense que même s'il y avait peut-être profusion de nourriture, les règles voulaient qu'ils fassent attention à ce qu'ils mangeaient et ils devaient manger ce que la noblesse mangeait. Donc la notion de plaisir, non. L'alimentation, le repas, c'était un élément du rituel d'ostentation de la noblesse du XVIIIe siècle.
Mais est-ce que étudier ces menus t'a permis de savoir peut-être sur les préférences des Malons de Bercy, est-ce que tu peux dire « Ah oui, bah, clairement, dans cette famille, on voit que madame ou monsieur préférait manger telle ou telle chose » ou est-ce que ça, en fait, ça ne te prenait pas en compte ?
Non, c'est ça, en fait, l'exercice le plus compliqué quand on fait l'histoire de l'alimentation de la noblesse, c'est vraiment de voir le goût. Je sais que Philippe Mézier avait fait une étude sur une noble bordelaise où, en fait, il a constaté toute l'influence donc, de la religion, du code de la noblesse et aussi du goût régional. Parce qu'il y avait des produits alors, de la région, que je n'ai plus en tête, mais qui était très présent dans ses sources. Et pour la période que j'ai étudiée, donc entre 1745 et 1781, je n'arrive pas à discerner un goût spécifique à la région parisienne et au Malon de Bercy.
Et peut-être que si après, dans tes recherches, tu étudies d'autres familles ou d'autres tables, tu pourras avoir ça. Mais là, à ton niveau, c'est difficile de percevoir, c'est ça ?
Oui, il faudrait, je pense, d'autres études. Je sais qu'il y en a une, donc de Joseph Smet, qui lui a travaillé sur un noble du Languedoc et qui a vu l'influence de la maladie, donc de l'état de santé, sur l'alimentation d'un noble. Mais à ma connaissance, on est trois à avoir fait ce type d'études, sur une famille en particulier.
Pour le XVIIIe siècle ou pour l'époque moderne en général ?
Pour le XVIIIe siècle.
J'imagine que des fonds comme le tien, il y en a d'autres peut-être à étudier.
Peut-être. Sans doute privés, donc pas forcément accessibles, mais peut-être. Mais c'est un gros peut-être.
Donc tu me dis que les goûts de la famille n'influencent pas forcément les menus, mais alors qui décide des menus que manger ces personnes ? Parce qu'il fallait bien prendre une décision à un moment.
Alors, on a un domestique que l'on appelle le maître d'hôtel, qui avait la charge de veiller à la dépense quotidienne, et notamment à la dépense de la bouche.
Et donc à la surdépense, quoi.
Oui. Et donc le maître d'hôtel, pour décider du menu, je n'ai aucune information, mais je pense qu'il y avait quand même une discussion entre ses maîtres et lui, pour décider quand même de ce qu'il fallait manger à la journée. Et ensuite, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait une feuille, que nous on appelle feuille de table, sur laquelle il a écrit le menu du ou des repas de la journée.
Donc c'est ça qu'on a en archive aujourd'hui ? Tu as tous ces menus au fur et à mesure ?
Oui, j'en ai quelques-uns pour la période que j'ai étudiée, mais j'en ai beaucoup plus pour après.
Tu as commencé à parler du maître d'hôtel, parce qu'on l'a dit, on a tout en fait un petit groupe de domestiques qui gravitent autour de cette famille et qui s'occupent de toute cette nourriture.
Oui, alors on a donc les maîtres d'hôtel qui travaillent aussi en coopération avec ce qu'on appelait les pourvoyeurs. Eux se chargeaient d'entrer en contact et d'établir les contrats avec les différents marchands et fournisseurs. Et ensuite, on avait, sans grande surprise, tous les cuisiniers et les garçons de cuisine dans la cuisine pour préparer les repas.
Ça fait combien de personnes en tout ? Parce que tu dis les cuisiniers, ils en avaient combien environ ?
Alors ça, c'est le plus compliqué à déterminer. Parce qu'en fait, dans les sources, on constate qu'entre 1756 et 1781, il y a eu une vingtaine de cuisiniers qui sont passés dans les cuisines des Malons de Bercy, et pareil pour les garçons de cuisine.
Mais tu sais pas combien de temps il reste à chaque fois, t'as juste leur nom ?
On a les dates d'entrée et de sortie.
Donc si tu les recroises, tu peux savoir à peu près combien il reste à chaque fois.
Alors, on a toujours un cuisinier. C'est un seul cuisinier, donc un seul chef de cuisine si on veut. Par contre, les garçons de cuisine, c'est la plus compliquée. Parfois, il y a des dates qui se chevauchent. Parfois, on a des grandes lacunes de dates. On ne sait pas s'il y en avait un ou non dans la cuisine.
Donc, raconte-nous, en cuisine, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu sais de comment les repas étaient préparés pour cette famille?
Alors, pour tout ce qui est préparation des repas, je me suis aidé de sources qu'on appelle les mémoires d'étamage. L'étamage, pour ceux qui ne le savent pas.
Tu écris ça comment, étamage?
Étamage, E accent aigu, T-A-M-A-G-E.
D'accord, parce qu'on aurait dit état-major en version courte, en fait.
Oui, non.
Donc, état-major, vraiment, ouais.
C'est un système de réparation qui consiste à placer une couche d'étain dans le fond de votre casserole ou de votre marmite. Et donc, à travers ces sources, en fait, j'ai eu un aperçu d'une partie de la batterie de cuisine des Malins de Bercy.
Donc, des ustensiles qui étaient utilisés?
Oui.
Ah, c'est super, ça.
Alors, on sait qu'ils avaient beaucoup de casseroles. En moyenne, c'est 50 pièces réparées par an.
50 pièces de casseroles réparées par an, donc oui. Ils en avaient plein qui n'étaient pas forcément réparées chaque année.
Pas chaque année, alors le nombre total, c'est très difficile à déterminer. Même avec les inventaires après décès, on jongle entre 150 et 200 pièces. Alors oui, ça paraît énorme, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même les événements de mondanité.
Donc ce n'est pas seulement pour le quotidien.
Voilà, c'est pas seulement pour le quotidien, il faut aussi avoir le matériel pour pouvoir subvenir aux besoins de toute la noblesse invitée.
C'est quand madame avait une envie pressante d'haricots verts, c'est bon, hop, elle pouvait les avoir. Et donc, ce qui est bien, c'est que dans les archives qui sont présentées ici, on a notamment un plan de leur château, mais on ne voit pas où est la cuisine. Parce qu'en fait, la cuisine n'était pas dans le château, c'est ça?
Non. Alors ça, l'emplacement de la cuisine, c'est typique de l'époque moderne, où en fait, il y a eu un éloignement de certains espaces domestiques par rapport à l'habitation et au lieu intime, entre guillemets, des familles nobles.
Quoi, intime, entre guillemets?
Je mets intime, entre guillemets, parce que c'est autant leur espace à eux que l'espace où les mondanités peuvent avoir lieu.
Ils n'avaient pas une chambre à eux, voilà.
Ça, c'était plutôt à l'étage.
D'accord. Et donc là, la cuisine, en fait, elle était où?
Alors, la cuisine des Malins de Bercy, elle était séparée du château par une cour, qui était délimitée par des petits murets. Pour certaines demeures de nobles, il y avait cette distance, cette distanciation avait été réglée pour éviter que les places se refroidissent par la mise en place de corridors.
C'est-à-dire, pour faire une sorte de petit couloir.
Oui, pour faire un couloir. Ou alors, parfois, il y avait des souterrains. Pour les Malins de Bercy, malheureusement, ni la première ni la deuxième des solutions n'avaient été mises en place.
Donc, ils mangeaient froid?
Pas tout à fait. En fait, les plats traversaient donc la cour. Ils étaient, refroidis selon la chaleur du plat. Et en fait, ils étaient d'abord posés dans ce qu'on appelle le buffet. Alors, au départ, le buffet, c'était un meuble sur lequel la noblesse étalait toute sa vaisselle pour la montrer. Ensuite, c'est devenu une pièce à part entière, où il y avait effectivement des meubles pour ranger la vaisselle, mais il y avait aussi un autre meuble sur lequel, en fait, on pouvait poser tous les plats provenant de la cuisine. Et à l'intérieur de ce meuble-là, en fait, on avait des réchauds qui permettaient de garder la chaleur des plats.
Donc là, oui, on ne mangeait pas froid. Mais il faut imaginer donc tous ces domestiques en train de traverser la cour avec tout ça, en essayant de ne pas renverser.
Et c'est aussi pour ça que la cuisine avait été éloignée. C'était pour éviter que la noblesse assiste à ce balai de domestiques.
Oh, les pauvres! Et peut-être aussi pour tout ce qui est odeurs et compagnie, ou
oui,
pas?
Notamment les odeurs et aussi les risques d'incendie.
Donc on a parlé des menus, on a parlé de ce qu'ils mangeaient, mais aussi d'où viennent ces denrées? Est-ce qu'on sait où est-ce que la famille s'approvisionnait?
En grande partie, son alimentation provenait des étals de marchands ou de fournisseurs. Ça, on le sait notamment avec les livres de dépenses de table, dont j'ai parlé tout à l'heure, les livres où sont enregistrées toutes les dépenses par chapitre. On a aussi des livres de comptes dans lesquels les mémoires de fourniture ont été enregistrées, ainsi que les paiements, avec bien sûr la nature. Donc achat de pain, achat de vin, etc. Donc ça, on sait que c'était par des marchands. Alors les noms des marchands, on en a très peu. On a une petite visibilité sur les bouchers et sur les boulangers. Malheureusement, je n'ai pas de visibilité sur les autres fournisseurs. Soit parce que je n'ai pas les noms, soit parce que je n'ai pas suffisamment de sources à ce sujet.
Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, tu as constaté dans les sources qu'ils sont assez fidèles dans leur consommation. C'est que tu as même vu un cas d'un fournisseur qui a travaillé pour la famille pendant plus de 10 ans.
Oui, un débouché a eu une relation d'affaires avec les Malins de Bercy de presque 12 ans. 12 ans de relation. Donc c'était des relations longues, des grandes relations de fidélité, mais en même temps, elles profitaient aux deux parties. Les Malins de Bercy, eux, étaient assurés d'avoir leur nourriture. De l'autre côté, le marchand, lui, il avait une garantie de renommée parce qu'il nourrissait les Malins de Bercy.
Et donc, on peut imaginer qu'ils achetaient des choses plutôt locales, ou même si tu disais tout à l'heure, il y a peut-être des choses qui venaient de loin quand même?
D'après les sources, c'est surtout le local. Ça, c'était une économie. Alors, ça rentre un peu dans ce qu'on nous dit aujourd'hui, d'acheter local, d'acheter régional.
Les Malins de Bercy, voyons.
C'est ça, les Malins de Bercy sont un exemple. Quand ils étaient à Paris, c'était un boucher de Paris qui les livrait. Quand ils étaient au domaine de Bercy, c'était un boucher de Bercy.
Tu sais où est-ce qu'ils logeaient à Paris?
Alors, à Paris, il y avait différents hôtels dans lesquels ils pouvaient loger.
Toujours pour 4 personnes seulement, quoi.
Voilà, pour 4 personnes seulement. Je sais qu'il y en avait un rue de Torigny, donc ça se trouve dans le Marais, actuellement. On a aussi rue de Varennes, et c'est tout.
C'est déjà pas mal. Et pour les produits un peu de luxe, est-ce que tu as eu des indications sur peut-être des choses un peu lointaines, des épices, tout ça ?
On sait, à l'aide d'une préparation, enfin d'une facture de préparation chocolatée, qu'ils se fournissaient, alors, en cacao des îles, comme on le disait à l'époque. Donc c'est le cacao qui était produit dans ce qu'on appelait à l'époque les colonies. Et on sait aussi qu'ils se sont fournis en carac. Et la carac, c'est une variété de chocolat du Venezuela.
Je vous renvoie pour ça vers l'épisode de Passion Moderniste consacré au chocolat à l'époque moderne. Voilà, j'espère que vous l'avez tous et toutes écouté. Et ce qui est intéressant aussi, si on revient à comment ils se procuraient ce qu'ils mangeaient, c'est qu'ils avaient aussi un jardin potager. Et là, je veux que tu me donnes tous les détails parce que ça a l'air super intéressant le jardin potager.
Alors, le jardin potager des Malons de Mercy, c'est vrai que c'est un des éléments du sujet qui m'a le plus intéressé. Alors, il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, et même un petit peu avant, les légumes ont eu un regain de succès. Avant, on en mangeait peu, et au fur et à mesure, on a commencé à beaucoup en manger, ce qui a obligé, entre guillemets, les élites à consacrer une part de plus en plus importante de leur parc et jardin au potager. Donc, les Malons de Mercy, ça faisait environ 25 hectares.
Petit erratum, c'est la famille du montage. En fait, pendant l'enregistrement, Mathieu s'est un petit peu emballé. Il a dit 25 hectares pour le potager. En fait, il ne faisait seulement que 3 hectares. Il y a une petite erreur parce qu'en fait, il parle des 25 carrés. Donc, 25 carrés, mais ce n'était que 3 hectares. Voilà, je vous laisse faire la correction dans votre tête pour le reste de l'épisode. On reprend l'écoute.
Je sais qu'ils y cultivaient des carottes, des navets, des haricots et des petits pois, bien évidemment. Quelques salades, notamment de la chicorée. Ils y cultivaient aussi quelques aromates.
Et aussi des arbres fruitiers ou pas ?
Oui, alors ça, c'était dans ce qu'on appelait on appelle ça aujourd'hui le verger. Avant, ils pouvaient aussi l'appeler le fruitier.
Est-ce que tu as peut-être d'autres informations comme ça sur le jardin potager, sur qui l'entretenait ? Est-ce que donc il y avait des personnes, j'imagine, consacrées à tout ça ?
Oui, alors ils avaient des jardiniers. On sait qu'entre 1759 et 1776, il y en avait 5.
Ce qui est intéressant, pour le coup, c'est que tu as des informations, enfin tu l'as dit plusieurs fois, c'est que oui, on connaît les Malons de Bercy, mais tu arrives donc à avoir des informations sur ces personnes en fait, du commun. Et je suis très contente parce que c'est vrai que, alors je fais plus souvent le podcast Passion Médiviste, où on a finalement peu d'aperçus de ces gens-là. Et là, c'est quand même chouette, avec Moderniste, on a plus de sources. Même malgré tout ce que tu dis, on a quand même plus de sources. Donc est-ce que tu as pu un peu creuser sur ces gens ou pas du tout ?
Ce qui est dommage, en tout cas avec le fonds Malons de Mercy, c'est qu'il n'y a pas le livre de gage. Le livre de gage, quand on veut traiter des domestiques, c'est la source la plus importante. C'est là où tous les domestiques sont listés. Leur nom, leur origine, de quelle région ils venaient, l'emploi qu'ils avaient, la date d'entrée et la date de départ. Malheureusement, dans les Malons de Mercy, alors on n'a pas le livre de gage, on a plusieurs sources qui nous permettent tout de même de voir les entrées et sorties, d'avoir les noms, alors l'origine nom. L'emploi, ça se devine soit sur le titre de la source, soit en regardant quelques indications.
Et en cuisine, on n'avait que des hommes ou des femmes aussi ?
Alors, je n'ai vu que des hommes, malheureusement. La seule femme, elle arrive pendant la Révolution.
Bah justement, revenons aussi un peu en cuisine. Là, pour parler peut-être de recettes, parce qu'on a parlé de nourriture en général. Est-ce que tu as des informations peut-être donc sur les recettes qui étaient faites et peut-être sur des techniques ? Est-ce que sur comment était faite la nourriture ?
Alors pour les recettes, c'est extrêmement difficile. Je sais qu'ils ont consommé certains plats faits de manière différente, en civet, en crapaudine. Il faut imaginer la carcasse de l'animal coupée en deux et écartée et aplatie. C'est très étrange. Ça vous fait parfois un poulet. Si vous faites en crapaudine, en fait, ça a vraiment la forme d'un crapaud.
Ah, oui. D'où le nom. Okay.
Voilà, d'où le nom. Mais je ne sais pas si c'est dans leur cuisine que ça a été fait, puisque c'est commandé de cette façon. C'est indiqué, donc je pense que c'était ce qu'on appelle aujourd'hui des plats préparés. Ça arrivait en cuisine, les cuisiniers s'occupaient surtout de les réchauffer. Et ensuite de les distribuer.
Donc un menu comme ça, typique de les Malons de Bercy, ce serait quoi ?
Le menu typique, je pense que je peux m'inspirer de ce qu'ils ont mangé dans les derniers mois de leur vie, notamment pour Maximilien Emmanuel et Catherine de Simiane. Alors on sait qu'ils ont mangé du pigeon au petit pois, qu'ils ont consommé aussi du vin, mais c'est tout. C'est ça en fait le problème, notamment avec toutes les autres familles nobles, c'est que le menu, on ne le connaît pas avec exactitude, on ne connaît que les menus du roi.
On n'a pas une profusion de repas comme on peut imaginer, repas 1, 2, 3, 4 servis à table. Non, finalement, c'est juste un repas.
Oui, c'est le repas, pas le repas d'aujourd'hui, mais à peu près. Oui.
Et sans dessert ?
Alors, on sait qu'ils pouvaient fabriquer du dessert. On sait qu'ils avaient des instruments, par exemple, pour faire des sorbets. Ils avaient la sorbetière.
Oui, mais dans les menus, tu n'as pas indication
non,
de dessert,
menu,
quoi.
Non, on n'a pas l'indication du dessert qu'ils ont consommé.
Et donc, on l'a dit, pour avoir toutes ces informations, Mathieu, bah, tu travailles sur un fonds d'archives donc, qui est ici, aux archives du Val-de-Marne. Alors, raconte-nous comment se sont passées tes recherches sur ce fonds. Parce que, et aussi, on parle de quelle quantité de documents.
Alors, la quantité est énorme.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que j'ai consulté au moins une quinzaine de cotes. Et une cote, c'est environ 200 pièces. Et ça peut aller jusqu'à 800 pièces.
Ah ouais !
C'est énorme.
C'est des boîtes d'archives, c'est ça ? Ça se constitue... Oui. Ça se présente comment ?
Alors, il y a des boîtes de différentes dimensions. Les plus petites, c'est quand elles contiennent des registres. Les plus épaisses, c'est quand il y a plusieurs registres. Et même parfois des documents feuilles volantes, si on veut.
Et donc, juste aussi pour donner une idée peut-être aux gens qui écoutent, une boîte, c'est quelle taille à peu près ? Enfin, on est sur un parallèle pipette de quoi ? À peu près une feuille A4 ou plus ?
Plus.
Plus gros qu'une feuille A4 ?
Oui, je dirais même parfois c'est du A3.
Ah ouais ?
Ouais, surtout pour les plans.
Donc, tu as consulté plus d'un millier de documents, c'est ça que tu es en train de me dire ?
Oui.
Non mais en seulement 2 années de recherche.
Oui, sachant que déjà pour le premier, c'était environ 1000 pièces et il y avait d'autres pièces supplémentaires aussi pour la deuxième année.
Et comment tu l'as vécu ?
Très honnêtement, c'était quand même un plaisir. Plaisir.
Ça se sent que tu as pris ton sujet, oui. Donc je me doute. Mais c'est de quand même, voilà, cette masse documentaire à traiter, ça, c'est énorme.
Oui, c'est vrai que, alors notamment pour les données statistiques, ça a été la difficulté. Parce que c'est vrai que bah, quand on réunit toutes les données, qu'on les transcrit dans un logiciel de base de données, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Qu'est-ce qu'on fait des chiffres qu'on obtient, des pourcentages, quels sont les graphiques qui seront visuellement plus propices à expliquer tel ou tel événement, tel ou tel phénomène ? Ça a été la difficulté au niveau des données que j'ai récupérées. Mais après, c'était quand même un plaisir d'avoir entre les mains des documents qui ont traversé 3 siècles quasiment.
Parce que, alors, dans ta formation, est-ce que tu as eu des cours pour te former à comment utiliser ce genre de chiffres ou tu l'as fait sur le tas ?
C'est un mélange des deux. On nous aide quand même dans nos cours, notamment toutes les années de licence, en master aussi. Après, il y a aussi un peu d'autodidacte. Parce que parfois, on nous présente une manière de présenter les chiffres qui ne convient pas forcément au sujet de l'alimentation, par exemple. Donc là, on se renseigne, on lit des ouvrages et des travaux qui correspondent à notre recherche. Moi, j'ai eu la chance, du coup, d'avoir les deux études, celle de Joseph Smet et celle de Philippe Mézier. Et donc, bêtement, entre guillemets, j'ai appliqué la même méthode. J'ai pris exemple sur leur façon de présenter les éléments et je l'ai appliqué à mon travail.
Parce qu'en plus, j'imagine qu'à partir de ces milliers de pièces, mais tu peux faire... plein d'études différentes. Donc toi, tu as dû un peu, j'imagine, te limiter parce que sinon tu aurais pu passer et peut-être tu y passeras peut-être encore des années dessus.
Oui, c'est vrai que cette masse de données, ça ouvre beaucoup de fenêtres, surtout pour la période révolutionnaire où il y a tous les changements de monnaie. Donc là, il y a toute la réflexion à avoir sur de quelle monnaie je parle, comment j'en parle.
On est sur quelle monnaie à ton époque ? Enfin, l'époque où tu étudiais ?
L'époque où j'étudiais, on est sur la monnaie du 18e, c'est-à-dire les livres, les sols et les deniers pour la monnaie de compte.
Comme au Moyen-Âge, c'est bon, on n'a pas perdu. Mais alors, raconte-nous, donc, quand tu viens aux archives, raconte-nous, bah, on a parlé d'une journée type pour les Malons de Bercy, une journée type de Mathieu Lanos qui vient aux archives, une séance, comment ça se passe ? Alors bien sûr, tu as des archivistes super méchants avec toi, ils sont dans la salle, là on ne doute pas, ils sont très méchants avec toi. Mais comment ça se passe ? Tu dois donc demander des documents, ils te les donnent, oui ou non ?
Oui, alors déjà dans l'équipe est vraiment adorable, pour les archives, elle est vraiment adorable. Du coup, il faut d'abord commander sur les postes disponibles les cotes.
Donc toi, c'est-à-dire que tu avais repéré, enfin c'est ta directrice qui t'avait donné les cotes ou c'est toi qui as dû chercher ?
Un peu des deux. Elle m'a donné la cote du fonds d'archives, elle m'avait donné quelques cotes importantes.
Ouais, donc on rappelle, donc les cotes, c'est le système d'identification des boîtes. Pardon aux archivistes dans la salle, mais vraiment je simplifie le plus possible.
C'est la carte d'identité, comme j'aime bien le dire, des archives, enfin du dossier. Donc on commande les cotes, ensuite on patiente quelques minutes seulement pour qu'on nous les apporte. Et après on a une boîte par une boîte et on consulte après chaque archive.
Donc tu savais que ces cotes correspondaient à ce fonds de recherche ? Ce fonds d'archives, pardon, mais tu ne savais pas exactement ce qu'il y avait dedans ou un petit peu ?
Un petit peu, parce que je m'étais aussi renseigné auprès de certains de mes prédécesseurs qui ont déjà travaillé sur la famille des Malons de Bercy, sur différents sujets, les bibliothèques, l'habillement, les dépenses culturelles.
On a vraiment des archives sur tout sur eux, hein ?
Oui, non, le fonds d'archives est complet.
À quand un livre entier sur les Malons de Bercy ?
C'est en projet.
Ah !
C'est en cours de réflexion et il faut voir aussi si on ne traite pas d'autres sujets. Parce qu'il y a encore, on peut traiter de l'hygiène de vie, de la santé, comment ils se soignaient, comment ils entretenaient leur corps. On peut aussi parler des écuries, donc les achats de
ils
chevaux.
Ils avaient des chevaux ?
Oui, ils avaient des chevaux.
Et donc là, quand tu ouvres un carton d'archives, comment ça se passe pour toi ?
Là, il faut surtout mettre bien en valeur le travail qui a été fait en amont. C'est-à-dire qu'on a eu un tri déjà effectué des archives. Donc, c'est-à-dire qu'on a des pochettes qui nous indiquent.
Oui, c'est parfois... pas pêle-mêle dans, le,
non,
dans la
c'est
boîte.
C'est pas pêle-mêle.
C'est pas le cliché de tu ouvres une boîte et pouf, t'as de la poussière qui sort avec. Non, non, c'est super bien rangé.
Non, oui, c'est très bien rangé. Donc, on a toujours les petites pochettes qui font parfois un titre général, donc dépenses de la table. On l'ouvre. Et parfois, on a encore d'autres petites pochettes sur dépenses de viande, dépenses de légumes, dépenses de blé, etc.
Donc toi, tu travailles dessus. Enfin, est-ce que tu ouvres en ayant un objectif ou est-ce que tu ouvres une boîte d'archives en disant bah, « je verrai ce que je trouve ».
Il y a toujours les deux cas. Il y a très souvent des boîtes d'archives que j'ouvre en me disant « je sais très bien ce que je cherche ». Soit je passe très rapidement les sources précédentes parce que je sais qu'elles n'ont pas de lien avec l'alimentation. Soit je prends quand même le temps d'en feuilleter certaines. Parce que notamment, bah, j'aurais peut-être pas eu l'idée de regarder les mémoires d'étamage. Pour voir la batterie de cuisine. J'aurais peut-être pas eu aussi l'idée de voir tous les mémoires d'ouvrages de menuiserie, de maçonnerie, même de peinture, qui me permettent aussi et qui m'ont permis d'avoir une visibilité sur ce qui se trouvait dans certaines pièces. La salle à manger, le buffet ou la cuisine.
Et bien justement, là, ce que tu nous as dit sur les menuisiers et sur ce que tu as reçu comme information, est-ce que ça nous apprend des choses sur comment était faite une salle à manger à l'époque ?
Comme la plupart des pièces, la salle à manger, elle est très vite tombée entre les mains des traités d'architecture. Donc, il y a eu des règles qui ont été établies pour avoir, on va dire, la salle à manger parfaite. Donc déjà, il fallait une harmonie de mesure. Les murs devaient faire la même longueur. Donc, normalement, on devait avoir un carré parfait. Les fenêtres de la salle à manger devaient donner sur le parc et les jardins.
Tu peux pas improviser ta salle à manger après que ton château soit construit, quoi. Enfin,
oui,
ça devient compliqué, là.
Ça devient compliqué. Donc, les Malans de Bercy ont aménagé la pièce. C'est pas un carré parfait, mais c'est très proche du carré. Et par chance, les quatre fenêtres de la salle à manger donne sur le parc et les jardins. Alors après, on savait aussi que dans la salle à manger, il devait y avoir une décoration spécifique. Une décoration qui devait donner, entre guillemets, un avant-goût du repas. Et pour les Malans de Bercy, on sait qu'il y avait plusieurs tableaux, notamment deux chasses, une chasse au cerf, une chasse au sanglier. On savait aussi qu'il y avait un tableau qui représentait un étal de poisson et un dernier tableau qui représentait une cuisinière occupée en cuisine.
Est-ce qu'il faisait pareil dans toutes les pièces ? C'est-à-dire, est-ce que, genre dans la pièce à dormir, il y avait quelqu'un en train de dormir ? Est-ce que... Non, mais... Parce qu'encore dans la salle à manger, tu peux représenter ça, mais dans le reste, dans la salle de bain, enfin, est-ce qu'il y avait des salles de bain à l'époque ?
Oui, sans doute une salle d'eau. C'est très compliqué, encore une fois, d'avoir des certitudes, puisque ça change très régulièrement. Par contre, on sait que les Malans de Bercy avaient une baignoire et qu'elle était connectée, si je me permets d'utiliser ce terme, à un système hydraulique, donc à un système de tuyauterie, qui lui-même permettait d'arroser le jardin.
Et justement, les archives, on le voit ici un peu dans la salle, les archives qui sont montrées, c'est qu'on a à la fois des archives manuscrites, mais aussi imprimées.
Oui, on a un petit peu des deux. Pour les imprimés, j'aime bien dire semi-imprimés, parce que c'est surtout des textes à trous.
Oui, mais donc on n'a pas que des choses qui ont été écrites à la main, donc c'est intéressant de voir ça aussi.
Oui, après j'ai quand même eu majoritairement des sources inscrites à la main.
Et est-ce que c'est lisible ? Enfin, j'imagine que oui, parce que tu as travaillé dessus. Mais à quel point est-ce que c'est lisible ? Parce que là aussi, encore une fois, c'est le cliché voilà, des archives de l'époque moderne avec plein de boucles dans tous les sens et tout ça. Mais là, ça va ?
Alors, je remercie les deux enseignants que j'ai eus en paléographie. Ça m'a beaucoup aidé.
Tu peux donner leur nom ?
Alors, Monsieur Boyko et Monsieur Dubost. Le premier, je l'ai eu dans ma dernière année de licence et le second pendant mon master.
Donc, tu avais besoin d'aide pour les lire ?
Alors, comme j'ai ouvert ces archives après déjà une année de paléographie, enfin, un semestre, pardon, de paléographie, ça a été. Mais c'est vrai que parfois, il y a quand même quelques difficultés quand ce sont les marchands et fournisseurs qui ont écrit. Parfois, c'est pas très lisible. J'ai quand même réussi, mais j'étais surtout amusé par l'orthographe.
On est sur du français en général ?
Oui, enfin, on est sur du français. Oui.
Et justement, bah, à part les difficultés pour lire, quelles sont les autres difficultés que tu as eues dans tes recherches ?
Parfois, ça a été vraiment de savoir faire parler une archive. Il y a parfois ce moment où on se retrouve sur une archive qui est en lien avec notre sujet et on se dit, mais comment je vais la faire parler ? Ça a été notamment le cas de la provision de carême. Là, je me suis dit, d'accord, donc j'ai en face de moi une source qui permet de parler, entre guillemets, de l'hypocrisie de la noblesse. Mais je me dis, mais comment je vais le faire ? Parce que dans tout mon développement, je n'avais pas encore prévu un passage dédié à ça. Et donc, je me suis dit, comment je vais le faire ? Et encore une fois, j'ai dû lire d'autres ouvrages pour savoir comment parler de ce système, en fait, de contournement de règles du carême.
Ça veut dire que tu écrivais pendant que tu faisais tes recherches ?
Je sais que ce n'est pas du tout conseillé.
C'est pas moi qui vais juger, hein, c'est d'autres personnes.
Mais oui, non, j'avais déjà commencé à rédiger une mémoire, oui. Après mes lectures déjà, et en même temps, pendant que j'étais en train de consulter les sources.
À l'inverse, est-ce que tu as eu des bonnes surprises dans tes recherches ?
Oui, j'ai eu la surprise, alors ça m'a fait beaucoup sourire, de voir la carte de visite, si on veut entre guillemets, d'un négociant, donc avec qui Malan de Bercy était en relation d'affaires, sur une carte à jouer.
Ah oui, c'est ce qu'on a dans la vitrine, là ?
Tout à fait.
Parce qu'on a que, bon, on a que un côté, mais tu veux dire que là, on voit le côté carte...
Carte à jouer, ouais.
Donc c'est quoi ? C'est un 7 de carreaux, c'est ça ? Ou de cœur ? On nous dit un 10 de carreaux. Donc de l'autre côté, on a le nom du fournisseur, c'est ça ?
Oui, Monsieur Lormier.
Donc c'est original, comme... Oui.
Alors, j'avais ouvert la pochette et je fais défiler les sources, je la regarde et là, je me dis une carte à jouer. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Et là, je la retourne et je me dis, ah, d'accord, c'est pour ça.
Donc, on peut dire que les cartes de visite datent au moins du XVIIIe siècle ?
Oui, au moins.
Après l'enregistrement, tu vas nous présenter donc ces archives. Et donc là, on voit, on a une grande diversité de documents sur lesquels tu as travaillé.
Oui, alors j'ai surtout travaillé sur ce qu'on appelle des sources comptables. Elles concernent en fait les dépenses des Malins de Mercy. Mais j'ai quand même aussi travaillé sur des plans. Des plans qu'on appelle des plans de disposition, qui permettent de voir l'emplacement de chaque pièce dans le château de Bercy.
Alors tu l'as dit, il y aura peut-être un livre sur les Malins de Bercy, et peut-être si vous écoutez cet épisode dans quelques années, cherchez peut-être qu'il est sorti d'ici là. Mais en attendant, est-ce que tu aurais peut-être un conseil de lecture plutôt accessible, on va dire, pour en savoir plus sur l'alimentation et ou la cuisine à l'époque moderne ?
J'aurais deux conseils de lecture, et principalement des ouvrages de Florent Quellier, qui est actuellement un des historiens de l'alimentation. La première référence, ce serait l'histoire de l'alimentation de la préhistoire à nos jours, donc qui a été publié en 2021 aux éditions Belin, qui a été dirigé par Florent Quellier, et les historiens qui y ont participé ont fait un très beau travail de synthèse. C'est quand même un livre assez épais, il fait 800 pages, mais ça nous permet d'avoir un magnifique panorama sur l'histoire de l'alimentation.
Un beau cadeau de Noël, c'est ça ?
Oui, avec surtout des beaux chapitres sur l'époque moderne, et c'est surtout un livre qui, en termes d'édition, a été très bien fait. C'est-à-dire que le texte ne prend pas toute la place, on a pas mal d'illustrations, des petits focus et des grands focus, et parfois... Pour certains cas, on a même des recettes.
Ok, tous les gourmands dans la salle sont taqués. Et le deuxième conseil de lecture, c'est quoi ?
Et le deuxième conseil de lecture, c'est toujours Florent Quellier, c'est l'histoire du jardin potager. L'ouvrage qui m'a le plus aidé dans mon travail.
Et pour finir, Mathieu, est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner à de futurs étudiants qui aimeraient se lancer dans la recherche ? Et peut-être des conseils sur les visites en archives, pour des conseils un petit peu, des conseils pratiques, des petits tips comme ça ?
Alors pour le conseil pour se lancer dans la recherche, il faut d'abord trouver un sujet qui nous intéresse vraiment, parfois même un sujet qui peut être important pour même notre histoire familiale, mais parfois vous pouvez aussi changer d'avis, vous avez parfaitement le droit de changer d'avis et suivre les conseils de vos directeurs de recherche.
Ça sent le vécu quand tu dis ça comme
oui.
ça.
Parce que pour la petite histoire, en fait, quand je suis arrivé en histoire publique, je voulais d'abord travailler sur la représentation d'époque moderne à travers la saga de jeux vidéo Assassin's Creed, mais j'avais un peu peur de trop passer de temps à jouer au jeu plutôt qu'à faire un vrai travail de recherche là-dessus. Et en fait, quand Madame Touzery m'a parlé d'alimentation, ça a fait tilt tout de suite. Je l'ai trouvé notamment plus accessible et plus sérieux.
Ce qui est drôle, c'est que tu n'es pas la première personne à me donner ce conseil. C'est quasiment toutes les personnes à qui j'ai demandé, c'est un des premiers conseils qui revient, c'est d'avoir trouvé un sujet qui vous plaît. Et comme autre conseil, peut-être pour les archives ?
Ne pas avoir peur d'aller voir les employés des archives. Ce sont eux les mieux placés pour nous aider dans notre recherche. Après, comme tout le monde, ils n'ont pas toujours réponse à tout, mais très souvent, pour les archives, pour les fonds qu'ils connaissent, c'est un trésor d'informations.
Ils peuvent aider sur quoi, par exemple ?
Notamment à vous rendre accessibles certaines archives qui, à cause de certains bugs informatiques, ne le sont pas. Ça a été mon cas. Il y a eu quelques codes qui étaient indiqués indisponibles pour moi, mais en fait, qui pouvaient être accessibles.
Donc pour contourner l'informatique, autant parler directement à des humains ?
Oui. Et après, on a aussi parfois des personnes qui peuvent venir vous aider à mieux comprendre certaines archives.
Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur l'alimentation au XVIIIe siècle, mais vraiment beaucoup plus. Donc merci beaucoup Mathieu Lanos pour nous avoir raconté toutes ces recherches passionnantes et puis bonne continuation. Je ne t'ai pas demandé, mais est-ce que tu aimerais continuer peut-être à travailler sur cette famille ?
Ça, c'est encore en réflexion. Ça dépendra aussi du projet du livre qui réunira toutes les études. Si Madame Touzery n'y voit pas d'inconvénient et m'y encourage, je pense que je pourrais peut-être travailler sur l'architecture du château. Ça permettrait de le reconstituer.
Oui, on ne l'a pas dit, mais il a été rasé, en fait, ce château.
Oui, ouais, il a été rasé en 1860.
En tout cas,
Sur mon site passionmedievis.fr, auditeur auditrice, il y a une section passion moderniste et vous trouverez un article en lien avec l'épisode du jour avec des informations complémentaires. On vous mettra des photos, des archives et donc les conseils de lecture que tu as donnés avec d'autres en petits suppléments. Et profitez-en, vous êtes sur le site, allez voir les autres épisodes de ce podcast, enfin, les voir, les écouter du coup, surtout parce que je vous conseille donc l'épisode 2 donc sur la bière, le chocolat, je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête exactement. On avait aussi l'épisode 34 sur les femmes dans les révoltes au XVIIIe siècle, donc là notamment avec une grande importance du rôle de la nourriture dans les révoltes, oui on a parlé beaucoup de nourriture aussi là-dedans, et aussi je vous conseille aussi l'épisode 41 sur les apothicaires au XVIIIe siècle, là aussi en côté de la vie quotidienne. Et encore sur le site vous trouverez les autres podcasts, passion médiéviste sur l'époque médiévale et passion antiquité sur l'Antiquité, vous avez suivi. Merci beaucoup et je vous jure, c'est vrai, à Lucie Castet de m'avoir aidée à préparer cette interview. Oui, c'est un homonyme. Hein. Merci aussi énormément à l'équipe des archives du Val-de-Marne d'avoir permis cet enregistrement. Alors, je tiens à remercier, j'espère ne pas faire d'erreur dans les prononciations. Donc, merci beaucoup à Rosine Lheureux. Merci beaucoup à Marion Bestel. Marion Bestel, peut-être que ce nom, si vous êtes auditeur, auditrice de Passion Médiéviste, très très fidèle, vous savez. Et oui, parce que je l'avais reçu dans Passion Médiéviste pour parler d'un certain cartulaire. Allez, voir sur mon site, vous trouverez aussi. Merci beaucoup. Alors j'espère que je vais bien prononcer Zoé Kiritsopoulos. Oui. Et merci beaucoup à Antoine Ruot donc pour tout ça. Et merci énormément au public. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion Moderniste.